Chapitre 83. 29 décembre 2017. Bernard Roy a toujours été commun. Au primaire, il était abonné à des 5 sur 10 et au collège à des 10 sur 20, histoire de ne pas se faire remarquer. Si Bernard Roy avait fait un test de QI, il aurait été de ceux dont l'intelligence est qualifiée de normale à moyenne. Au collège, il est allé jusqu'en 4e, a changé de voie avant la 3e et obtenu un CAP de mécano in extremis. Mais l'année de ses 16 ans, son patron, un garagiste de la Comelle, l'a mis à la porte en raison de ses nombreux retards. Bernard fumait trop de joints, d'où des réveils difficiles. Fin 1994, Bernard est entré à l'usine Magellan, le fabricant de pièces détachées auto, pour travailler à la sortie des lignes de fabrication, au contrôle qualité. D'abord intérimaire, puis en contrat à durée indéterminée. 23 ans sans faire de vagues. Bernard est passé à travers les réductions de personnel et autres départs volontaires. Il a épargné, ouvert un livret A, acheté un petit pavillon et une voiture à crédit. Au collège, il écoutait les Clash et portait des t-shirts à l'effigie des Sex Pistols, mais il ne se souvient plus exactement pourquoi. Quand ses enfants lui demandent « Papa, comment c'était quand t'étais jeune ?» Bernard leur répond « Pénible, tout le monde disait que je me prenais pour le roi. » Adolescent, une vieille bohémienne croisée à la fête foraine de la Comelle et à laquelle Bernard n'avait pas osé dire non lorsqu'elle avait saisi sa main, lui avait prédit un mariage plutôt heureux et deux gosses, mais qu'un événement viendrait bouleverser l'année de ses 17 ans. « C'est flou, mais c'est brutal », lui avait-elle dit, en réclamant 10 francs, les yeux écarquillés sur ses lignes de vie. Bernard n'y a plus pensé, jusqu'au jour où l'événement a eu lieu. Il s'est alors rappelé les derniers mots de la vieille femme. « Dis la vérité, petiot, sinon tu seras perdu. » La vérité, Bernard ne l'a jamais dite. Gentil père, bon mari, Bernard Roy a une vie parfaitement réglée. Le matin, il boit son café après avoir trempé une madeleine industrielle dans son bol, monte sur son vélo pour se rendre à l'usine située à 1 km de son domicile, mange son casse-croûte à 12h05 sur son banc et rentre à la maison à 17h30 pour aider sa femme dans les tâches quotidiennes. Cette année, il a pris ses congés de Noël le 22 décembre. Mais cette année, contrairement aux autres, il a regardé des émissions avec ses grands-enfants à la télévision sans les voir. Il a répondu au hasard oui ou non aux questions qu'on lui posait sans les écouter. Et la nuit dernière, il s'est décidé à vider son sac. Il est 9h ce 29 décembre quand Bernard enfourche son vélo. Pas pour se présenter à l'usine, mais à la gendarmerie. Coup de chance dans son malheur, il tombe nez à nez avec Sébastien Laran qui passe par l'accueil. Un ancien camarade de collège qui n'était pas vraiment son copain, mais le fait de le connaître rassure Bernard. Il aurait détesté tomber sur un inconnu en uniforme. Ou pire, avoir affaire à une femme. Le gradé le gratifie d'un sourire. « Salut ! Qu'est-ce qui t'amène de si bon matin ?» Clotilde Marais. Répond Bernard en fixant ses chaussures cirées par son épouse Céline chaque premier samedi du mois. Sébastien Laran perd instantanément son sourire. Lui qui pensait passer 5 minutes et repartir aussitôt. Depuis plusieurs jours, les habitants de la Comelle ne parlent plus que de cela. Ce corps retrouvé au fond du lac est-il celui de la jeune fille disparue? Les faits divers ne courent pas les rues par ici. Sébastien et Bernard se connaissent depuis qu'ils sont mômes. Bernard Roy doit avoir 1 ou 2 ans de plus que lui. Pas le genre de type à faire le mariole. Alors s'il se présente ce matin, c'est du sérieux, se dit le gendarme. Suis-moi, on sera plus tranquille dans mon bureau. Tu ne me mets pas en garde à vue ? S'étonne Bernard. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas dans New York Unité Spéciale ici. Dès qu'il s'assied, Bernard Roy regrette d'être venu. Pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça va changer ? Je t'écoute, l'encourage Sébastien Laran en lui servant un verre d'eau. Après un silence, Bernard finit par se lancer. Ce jour-là, le jour où elle a soi-disant disparu, Clotilde Marais, moi, j'allais pas trop bien. 6 mois plus tôt, je m'étais fait virer du garage par mon patron Je filais un mauvais coton. Je fumais beaucoup d'herbe. Pas mal de shit aussi. Mais j'ai jamais touché à autre chose. Je le jure sur la tête de mes gosses. Il faisait chaud ce jour-là. Il faisait triste aussi. Le matin, on avait enterré notre facteur. Un gentil. J'étais mal. L'ennui. Tout le monde qui était parti en vacances sauf moi, comme d'habitude, comme tous les ans. La mère, chez nous, on la voyait qu'à la télé. Alors on faisait des conneries. On tournait en rond. Je me cherche pas d'excuses, hein. Tu vois comment je suis gaulée. À l'époque, un sac d'os. J'osais pas aller à la piscine municipale, à cause des moqueries. Hé, hey, le roi, t'es pas bien costaud? Je donnerais pas cher de ton royaume. Tu vois le genre. Il restait le lac. Là-bas, c'était tranquille pour fumer et boire. J'avais la flemme pour tout et pas de permis. Mon frangin avait pris le vélo. J'ai décidé de piquer la Twingo du voisin, le père des Snos. Celui-là, je pouvais pas le blairer parce qu'il avait empoisonné notre chien l'année d'avant. On n'avait pas de preuves, mais on savait que c'était lui. Les portières de son épave étaient tout le temps ouvertes. Facile à démarrer avec le Neyman. Je suis allée direct au lac en serrant les fesses. Pas de permis, bagnole volée, du shit, de l'alcool dans la boîte à gants. Je savais que je lui ramènerais jamais son tas de tôle à Desnos, mais que j'allais en profiter. Faire du rodéo et l'abandonner quelque part. Je me suis trempée tout l'après-midi, bien à l'abri des regards. J'ai fumé, dormi, zoné. Quand il a commencé à faire nuit, j'ai redémarré la Twingo. À la radio, il y a eu cette chanson, full sentimentale, avec une histoire de vie en rose. J'ai jamais pu la réécouter. Parce que, en arrivant au bout du chemin, j'ai vu une fille sur le côté. Elle s'est retournée une fois. Je l'ai reconnue. Une fille de la Comelle que j'avais croisée au bahut. Une qui traînait pas avec un vilain comme moi. Mais j'ai eu peur. La parano de la fumette. J'ai paniqué. J'ai accéléré pour pas qu'elle me voie dans une voiture volée. J'ai pris de la vitesse en pensant « Passe vite à côté d'elle et baisse la tête ». J'ai pas eu le temps de la baisser. Elle s'est jetée sur le côté. On aurait dit une plongeuse ou une gymnaste qui veut battre un record aux Jeux Olympiques. Elle s'est jetée sous mes roues comme si elle volait. Elle a bien visé. Pas eu le temps de freiner. J'ai hurlé. Une peur bleue. Ça a été si violent que les phares ont explosé. Je suis restée plusieurs minutes derrière le volant sans oser sortir. Mes mains tremblaient. Avec ce que j'avais fumé tout l'après-midi, je savais plus si ce que je vivais c'était vrai ou si j'hallucinais. Et l'autre, full sentimentale à la radio, je l'ai coupé. Le moteur tournait toujours. Après, j'ai pleuré. Puis j'ai reculé. Je l'ai vue dans mes veilleuses, étendue sur la route. Un animal mort. J'ai repensé à mon grand chien que l'autre avait empoisonné. Son corps froid dans le jardin quand j'étais rentrée. J'ai fini par descendre. Au début, je l'ai pas touché. J'ai fini par chercher son pouls. Morte. Pourquoi ça tombait sur moi? Pourquoi elle avait fait ça? Se suicider devant moi? Pourquoi c'était avec un minable comme moi qu'une princesse se foutait en l'air? J'étais stone. Je me suis dit qu'il fallait faire disparaître la voiture avec la fille et oublier. Tout oublier. De toute façon, qui me croirait? Qui? Personne. Avec tout l'alcool et toute la beuh que j'avais dans le sang. La bagnole volée, pas de permis. Mon père me tuerait avant que les flics viennent m'arrêter. Je l'ai prise dans mes bras en chialant, en lui demandant pourquoi elle avait fait ça. J'arrêtais pas de lui poser la même question. Pourquoi t'as fait ça? Les morts, ça pèse lourd. Elle qui semblait légère, j'ai eu du mal à la soulever. Elle était encore chaude, de la transpiration sur les bras. Je l'ai allongée sur le siège arrière le plus doucement possible, comme si j'avais peur de lui faire mal. J'ai repris la route du lac en sens inverse, en priant pour croiser personne. J'ai repéré un endroit qui donnait direct sur l'eau. Une éclaircie au milieu des fougères. J'ai accéléré sur environ 100 mètres. La voiture a gueulé. J'ai pris de la vitesse, j'ai fait comme James Dean dans La Fureur de Vivre. J'ai ouvert la portière et je me suis jeté dehors. Je me suis cassé le poignet. La voiture a volé, comme Clotilde quand elle s'était jetée sous mes roues. Et puis elle a coulé. 23 ans sans bouger. Je pensais qu'on la retrouverait jamais. Jusqu'à ce que je lise l'article dans le journal. Perdez pas de temps à chercher l'ADN ou je sais pas quoi. C'est Clotilde Marais. Le pire, c'est que cette gosse, en se jetant sous mes roues, elle m'a un peu sauvé la vie. Après, je suis redevenue d'aplomb. J'ai plus jamais touché à la drogue ni à l'alcool. Elle m'a fait reprendre le droit chemin. J'ai souvent pensé à ses parents, mais je préférais qu'ils croient qu'elle était vivante quelque part, comme ça se racontait un peu partout. Il y a même quelqu'un qui a dit l'avoir vue au Brésil. Je voulais pas être celui qui allait annoncer à une mère et un père que leur fils était suicidé. J'ai failli parler quand je les ai vus à la télé chez Jacques Pradel. Mais à l'époque, mon aîné avait 1 an et ma femme était enceinte du 2e. Ils sont bien gentils, ces gens de Paris. Mais ils savent pas à quel point c'est dur de nourrir et protéger sa famille. Des fois, la vérité, il vaut mieux pas la dire. Elle fait trop de mal.